France Culture. Les nuits de France Culture.
Dès son ouverture, au mois de décembre 1986, le musée d'Orsay suscitait un immense engouement et c'était en masse que le public s'y rendait. Mais dans le même temps, et ceci même avant son ouverture, le musée était l'objet de nombreuses critiques, parfois très virulentes. En janvier 1987, un mois tout juste après son ouverture, Alain Finkielkraut rebondissait sur les polémiques dont la presse se faisait l'écho en consacrant un numéro de réplique à ce tout neuf musée d'Orsay. Y étaient conviés pour débattre la directrice d'Orsay, Françoise Cachin, et le sculpteur et peintre belge Paul Bury. Paul Bury, passé par le surréalisme et le mouvement Cobra, tenant de l'art cinétique, que nous allons entendre dans cette émission, formulait contre le musée d'Orsay des critiques qui n'avaient rien de convenu et qui se démarquaient notamment de celles qu'avait exprimées Pierre Soulages. De celles également que formulait Alain Finkielkraut en s'interrogeant sur l'opportunité de transformer une gare en musée. Réplique, le musée d'Orsay avec Françoise Cachin et Paul Bury, première diffusion le 17 janvier 1987 sur France Culture.
Réplique. Alain Finkielkraut. Depuis son ouverture il y a un mois, le musée d'Orsay est littéralement pris d'assaut par un public que n'ont découragé ni les grèves des transports, ni le froid et la neige, ni le dépit ou la colère suscités chez certains artistes par la conception architecturale du musée ou par la surreprésentation de l'art académique. Le contraste entre le nombre des visiteurs et la véhémence des détracteurs a fait dire à certains qu'il s'agissait là d'une querelle bien parisienne. Yves Mourouzi, la star du journalisme français, canonisé par le président de la République lors d'une émission mémorable et qui incarne à la fois la France qui gagne, la France qui bouge et la France qui a du cœur, a même déclaré sans embâge « Les râleurs, c'est le microcosme du 7e arrondissement ». À ma grande douleur, je dois ici me séparer d'Yves Mourouzi. Il me semble en effet que la querelle d'Orsay n'est pas microcosmique mais capitale et qu'il s'agit même d'un débat au moins aussi important pour l'avenir de la culture que la récente révolte dans les universités. Fort de cette conviction, un rien solennel, j'ai invité Françoise Cachin, directrice du musée d'Orsay, et le sculpteur Paul Bury à poursuivre en direct et de vive voix, une polémique commencée par écrit dans les colonnes du Nouvel Observateur. Comme il se doit, la parole est d'abord à l'accusation. Alors Paul Bury, qu'est-ce qui a motivé votre coup de colère contre Orsay ?
Mais c'est le premier coup d'œil d'ailleurs. C'est le premier coup d'œil lors de l'entrée et qui, toute cette salle, toute cette perspective qui se trouve sous la verrière de la gare d'Orsay. Et qui massacre d'une façon, je dirais, systématique les sculptures qui y sont montrées. Bon. Je ne vais pas résumer tout ce que les arguments que j'ai développés là dans le Nouvel Observateur.
C'est la sculpture intérieure, c'est l'architecture intérieure de Gaël Olenchi.
C'est l'architecture intérieure, beaucoup
agacé.
Oui, beaucoup, et qui est envahissante.
Parce qu'elle est envahissante.
Parce qu'elle est envahissante et qu'elle détruit la sérénité qu'un spectateur dans un musée doit avoir pour apprécier ce qu'il est en train de regarder.
Autrement dit, c'est comme si l'architecte voulait qu'on regarde son œuvre plutôt que les œuvres qui sont exposées, c'est ça ?
Oui.
C'est la couverture de son côté.
Et je trouve que justement cette architecture d'Olenti est la suite logique de ce qui se passe depuis environ une dizaine d'années dans les musées.
C'est-à-dire
où les architectes se font plaisir. Si on prend par exemple la National Gallery de Pei à Washington, c'est un beau morceau d'architecture, mais au détriment des sculptures ou des peintures qui sont exposées. Si par exemple on regarde le grand hall qu'il a fait à Washington, il y a là-dedans une immense tapisserie de Miro qui a l'air d'un timbre-poste.
Et vous pensez que c'est un peu pareil pour les tableaux avec Gaudentis? Ils sont rapetissés par le...
Là, je trouve que c'est pire parce que l'architecture de Gaudentis, c'est le pompiérisme du XXe siècle.
Françoise Cachin.
Oui, d'abord, je voudrais reprendre ce que vous avez dit au départ. Alain Finkielkraut, ce n'est pas un tribunal. Je ne suis pas une accusée.
Non.
Paul Bury n'est pas un accusateur.
D'accord.
C'est une polémique.
Bon, le terme était fort.
Oui, le terme était un peu fort. Alors, je ne me sens pas accusée. Et dans la mesure où je me sens accusée, je vais me défendre. Et je vais défendre une absente. Parce qu'après tout, on attaque quelqu'un qui n'est pas là, qui est Gaë Aulentis. Donc, je vais essayer de la défendre. Vous avez dit des choses... Moi qui m'intéresse beaucoup, tout ce que vous avez dit m'intéresse beaucoup et ce que vous avez écrit également m'intéresse beaucoup. Puis j'aime bien la façon dont vous avez écrit dans l'Observateur, j'aime beaucoup votre style. Bon, cela posé, vous dites des choses très différentes là. Quand on arrive, effectivement, on a un petit choc. On a un petit choc qu'on peut prendre de façon positive ou négative. Je comprends parfaitement qu'à l'arrivée et la première fois, le choc soit un peu négatif parce qu'il est, c'est très... c'est très imposant, c'est fort, c'est bien. Moi, je pense que très vite, on s'aperçoit que c'est plus grand que fort et qu'il y a une certaine grandeur que je défendrai, que je peux vous défendre plus tard. Le fait, alors là, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous venez de dire, c'est que vous pensez, quand on arrive, n'est-ce pas, il n'y a que de la sculpture. Hein, on arrive, il y a à droite et à gauche des grandes constructions et au milieu, une espèce de rue avec de la sculpture. Bon, c'est de cela qu'on parle, avec au-dessus la voûte de la gare. Bien, le problème est de savoir ce que vous dites, ce que vous accusez en l'occurrence, l'architecture de nuire à la sculpture dans cet endroit-là.
Et à la peinture, non?
Mais la peinture, on ne la voit pas.
Oui, enfin...
Commençons par la sculpture.
En fait, c'est un petit peu... La sculpture se présente un peu comme de la sculpture en plein air, à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'effectivement, la proportion est une proportion... les sculptures paraissent petites par rapport à l'immense voûte. Comme elles le seraient dans un jardin.
Non, ce n'est pas par rapport à l'immense voûte. C'est justement à côté de tous ces murs d'une démesure... extraordinaire. D'ailleurs, tout le monde a qualifié ça de babylonien, d'assyrien, de mussolinien. Oui. C'est ça. Et puis, il y a aussi les socles qui ont été faits.
Oui.
Qui ont été... Il y a la danse de Carpo sur une espèce de radiateur. On se demande pourquoi.
Il y a même des socles pour les sculptures de Rodin, alors que je crois qu'il avait demandé très explicitement que ces sculptures ne soient pas...
Oui, mais les socles pour les sculptures de Rodin sont extrêmement simples, ceux-là. Ils sont très bas et simples. En général, les sculptures de Rodin sont très hautes, donc il n'y a pas eu besoin de...
Mais celui de Carpo fait penser à un radiateur, un énorme radiateur.
Oui.
Oui.
Et vous pensez que tout cela...
Non, mais c'est l'accumulation, parce qu'ici, on s'attache à un détail, mais quand même, les socles sont particulièrement...
Et cela tient à, justement, à cette architecture intérieure, c'est-à-dire elle est tellement écrasante...
Ah non, il y a d'abord l'architecture intérieure, mais aussi les socles qui sont encore une chose...
Le socle du Carpo, en fait, si on avait mis un socle plein à cet endroit-là, ça aurait été très lourd. Extrêmement lourd. Et il fallait mettre le Carpo à cette hauteur-là pour qu'il soit visible du fond de la nef. Il y avait des raisons techniques. Et la volonté de Gaë Aulentis dans ce socle à raies, enfin ce socle avec des à bandes, si vous voulez, à raies, avec des trous qui vous fait penser à un radiateur, était d'alléger la forme pour qu'on l'oublie. Bon, vous estimez, c'est votre droit, que ça n'est pas réussi. Moi, je crois que quand on arrive, on regarde surtout le Carpo. Alors vous êtes, en tant que sculpteur, particulièrement sensible à ce qui présente une sculpture. Mais je pense que les gens qui ne sont pas sculpteurs arrivent et regardent le Carpo et peu remarquent le socle.
Oui, mais là c'est une façon de voir. Alors, ou bien on se concentre, mais on ne peut pas empêcher le regard d'être influencé par ce qu'il y a autour. C'est comme la couleur des murs pour les tableaux, c'est comme la pierre de Buxy pour les tableaux. Ça me gêne beaucoup.
Je voudrais revenir à la question plus générale que vous avez posée, parce qu'il y a peut-être quelques auditeurs qui n'ont pas encore vu le musée, donc ça nous est difficile de rentrer trop longtemps dans les détails, on n'est pas à la télévision, mais vous avez dit qu'au fond, il y avait depuis quelque temps une dérive qui faisait que les architectes, au lieu de se mettre au service, en quelque sorte, des peintres et des sculpteurs, les débordaient, entraient en concurrence avec eux. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a d'autres exemples en France que celui de, du musée d'Orsay? Et comment vous expliquez-vous cette espèce de rivalité?
Il y a le centre Pompidou. Le centre Pompidou est vraiment inadapté à sa fonction. D'ailleurs, depuis peu de temps qu'il est construit, parce que c'est pas il y a une douzaine d'années, je crois.
Là encore, l'architecture écrase tout.
Ben, évidemment, puisqu'on a été obligé de reconstruire des salles à l'intérieur pour pouvoir montrer des tableaux. Il est impossible de montrer de la sculpture au centre Pompidou.
Oui, mais alors là, je suis d'accord. Le grand plateau du musée du centre Pompidou rendait difficile de voir les œuvres. Mais justement, je vous ferai remarquer que la transformation qui a été faite au centre Pompidou et qui a reconstitué des salles destinée à la concentration des
œuvres. Oui, c'est Giolenti.
Elle est faite précisément par Giolenti. Ce qui veut dire, il faut pas... Giolenti est parfaitement capable de s'adapter à des problèmes. Et je pense que les solutions qu'elle a trouvées à Orsay sont adaptées aux problèmes d'Orsay.
C'est quoi les problèmes d'Orsay?
Les problèmes d'Orsay, c'est de faire un musée dans une gare. Vous pensez bien que ça n'est pas une chose facile.
Alors là, justement, je voudrais poser une question préjudicielle qui risque d'ailleurs de vous réconcilier contre ce que je vais dire. C'est-à-dire, fallait-il faire un musée dans une gare? N'y a-t-il pas à partir de là un certain nombre de contraintes? Madeleine Robériou, dans un article, dit, au fond, moi, ce que j'ai voulu, ce qui me semble bien, c'est que ce soit une salle des pas perdus. Et en effet, une gare ne peut donner qu'une salle des pas perdus, mais un musée doit-il être une salle des pas perdus? Et puis, j'ajouterais aussi, que je m'interroge sur cette propension du XXe siècle finissant à transformer des lieux plébéiens comme les entrepôts, les halles, les gares en temples de l'art, qu'il s'agisse de musées ou de théâtres. C'est une tendance extrêmement répandue et que j'ai, sur laquelle j'aimerais avoir peut-être vos lumières, Paul Bury et Françoise Cachin.
Je crois qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Je crois que si on sauvegarde des bâtiments anciens, c'est parce que la rage de détruire a sévi au début du siècle. Et puis, il est temps aussi de sauvegarder parce que bien souvent, on s'aperçoit que ce qu'on construit de nouveau est catastrophique. Là, on pourrait faire le procès de l'architecture moderne et se demander quelle est cette architecture moderne. Comment la définir? Parce qu'il y a tellement de choses divergentes qui se construisent que on ne sait pas où on va. Moi, je suis tout à fait pour la construction d'un musée dans la gare d'Orsay. D'ailleurs, ce que j'aime au musée d'Orsay, c'est la gare.
Oui, ben oui, bien sûr. Mais est-ce que cette gare peut être un musée? Est-ce que c'est possible? Parce que moi, je suis visiteur dans cette enceinte. Effectivement, la première chose qui me frappe, c'est la beauté de cette voûte, de cette nef, la beauté de cette gare. Et en même temps, j'oscille sans cesse entre un sentiment d'immensité et un sentiment d'étroitesse lorsque je vais d'une galerie à l'autre, et notamment lorsque j'arrive au troisième niveau, dans les combles, où je dois voir Toulouse-Lautrec dans un couloir, le mouvement Nabi ou l'école de Pantavène dans des tout petites galeries avec des colonnes, et je me sens confiné. Alors, ce mélange entre le confinement des œuvres et l'immensité de la gare me pousse à dire que c'est pas forcément un lieu approprié, même si c'est un lieu splendide. Françoise Cachin, j'ai sans doute tort, mais c'est
pour
le débat.
Non, sur le fond, je pense que c'est très bien de réhabiliter et de garder des bâtiments anciens, et que la grande catastrophe, ça a été de détruire les halles. Et c'est cette grande catastrophe qui fait qu'on se met à sauver des choses. Bon, il est évident qu'il aurait mieux valu sauver les halles. Et que peut-être on aurait fait un musée sublime dans les halles.
Donc vous pensez qu'effectivement, il y a Orsay des contraintes incontournables?
Bien sûr qu'il y a des contraintes, c'est évident. Alors ces contraintes, c'était à la fois, et c'était d'ailleurs dans le programme des architectes, c'était de garder cette impression de gare quand on arrive, et ensuite d'avoir des salles, et de ne pas avoir ce que décrivait Paul Bury très justement sur le bâtiment de paix à Washington, qui est un bâtiment superbe en tant que bâtiment objet architectural. On entre dans une salle absolument immense, superbe, et puis il y a des toutes petites salles à droite et à gauche qui font que finalement les expositions, on les remet dans le vieux musée, et que ça devient un endroit pour des expositions très plus petites, plus modestes, etc. Donc qui ne fonctionne pas bien comme musée. Ce qui n'est pas le cas d'une autre, car malgré tout, il y a énormément de salles, tout en ayant gardé ce caractère de gare, il y a énormément de salles. Et quand Madeleine Robert-Hugues parle de salles de départ perdues, c'est pas sérieux, c'est l'entrée qui est comme ça.
Ah, c'est ce qu'elle voudrait, hein. elle ne critique pas, non, non, elle dit je voudrais que ce soit une salle des pas perdus, c'est-à-dire le lieu de toutes les rencontres.
Et oui, c'est ça, alors je crois que dans ce cas, il n'y aurait pas seulement les pattes perdues, mais tout le reste, c'est-à-dire qu'on n'aurait verrait rien.
Oui, mais moi je ne critique pas les salles en elles-mêmes.
Oui, alors justement.
C'est en fait ce qu'on dit, entre guillemets, la décoration. C'est cet abus de chichi colossaux.
Oui. Oui, mais alors juste. Françoise Cachin.
Non, je vois les nuances de la.
Parce que par exemple, les fameuses vitrines de Degas.
Je sais que vous avez souffert de la vitrine de Degas.
Ah,
il y en a une.
Pour moi, quand j'entre là-dedans, je vois une sculpture
de Sol Lewitt. Qu'est-ce que c'est?
Oui, parce que nous ne sommes pas comme dire. C'est un grand bloc.
Nous ne sommes pas à la télévision.
C'est un grand.
Un grand bloc.
Un blocos vert, même. Très haut, de 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 50, et très grand. À l'intérieur duquel, alors ce bloc de verre est cerné par...
Ah, voilà, c'est pas le verre qui est coupable.
Non, mais il est cerné par... Bah, il est tenu par une structure en métal,
structure trop importante.
Et à l'intérieur de laquelle...
Qui, effectivement, fait penser à certaines belles sculptures de Sol Lewitt.
Et à l'intérieur,
il y a des sculptures de Degas. Mmh. Il y a toutes les sculptures, à peu près toutes les sculptures de Degas. Voilà. Alors, on les voit... Ce que vous reprochez, c'est que la vitrine elle-même ne s'oublie pas. C'est ça.
Oui, qu'elle écrase les sculptures qui sont assez... Pour moi, elle les écrase.
Et ça, pour vous, c'est à l'image du
musée
en général.
Oui, c'est à l'image de ce qui se passe dans le musée.
Mais Paul Bury, vous avez dit là tout à l'heure qu'au fond, pour mettre en cause cette architecture intérieure, vous avez dit c'est le pompier du XXe siècle. Mais alors à cet égard, on peut retourner l'argument et dire que le musée d'Orsay présente les peintres académiques et fait la part assez belle aux pompiers. Et n'y a-t-il pas, d'une certaine manière, une correspondance tout à fait rigoureuse entre le pompierisme, le gigantisme du 19e et puis le gigantisme de Gaiolenti? Est-ce qu'il n'y a pas une harmonie fondamentale entre les peintures des uns et l'architecture de l'autre?
Ce n'est pas un musée des pompiers du XXe siècle, il y a aussi les autres.
Du XIXe. Je dis ça parce que c'est un peu la transition que je voulais faire, c'est la question qu'on est quand même aussi amené à se poser, ou je voudrais la poser, disons, en termes très, très neutres, c'est-à-dire certains peintres académiques comme Cabanel, Paul Baudry, Isidore Pils, Alexandre Antigna sont là, ils vous accueillent même. La question que je voudrais poser, c'est sont-ils là à titre historique ou à titre esthétique, c'est-à-dire, et sont-ils là pour leur valeur tout court ou pour leur valeur de document? Françoise Cachin.
C'est une très bonne question, c'est le fond du problème, enfin l'autre débat d'Orsay. D'abord, vous avez cité des noms, qu'est-ce que vous avez cité? C'est très intéressant, parce qu'on mélange sous le nom de pompier tout ce qu'on ne connaît pas. Je vais résumer la situation. Les gens qui accusent le musée de réhabiliter les pompiers, en général, mettent dans le même sac tout ce qu'ils ne connaissaient pas. Bon. Alors, quand vous dites Antigna, c'est pas du tout un peintre pompier, c'est un peintre réaliste, contemporain.
Disons académique, quand même.
Mais pas spécialement.
Pas spécialement. C'est un peu c'est sans doute l'impression qu'il donne, mais je savais que j'allais me faire taper sur les
doigts. Non, pas taper, simplement.
Vous avez raison.
Non, pas du tout. Quand vous dites Jules Lefebvre et Cabanel, d'accord, vous avez raison, ça c'est de la peinture académique. Mais l'autre, pas du tout, d'abord c'est beaucoup plus tôt, hein. C'est 30 ans, 40 ans plus tôt, c'est une peinture réaliste du milieu du siècle.
Enfin, c'est une peinture qui est exposée tout près de la croix, comme si au fond, d'une certaine manière, vu qu'ils ont peint à la même époque, c'était du même ordre, et comme si la rupture instaurée par la croix était littéralement annulée par le musée. C'est un peu ça la question que je pose, en tout cas.
Non, il n'est pas vraiment près de la croix. Il est plutôt près il est plutôt près de Courbet, si vous voulez, de Millet, de ce mouvement-là. Bon, c'est un peintre très honorable, Antigna. C'est pas un pompier. Pompier, c'est quelque chose de beaucoup plus, d'abord, de plus tardif dans l'histoire. On pourra parler du terme de pompier. Mais quand vous parlez de Cabanel, bon, c'est évident. Mais Cabanel a été, comme beaucoup d'artistes de tous les temps, d'avant-garde à une certaine époque et plus à une autre. Ou en tout cas, brillant et doué et intéressant du point de vue esthétique à une certaine époque et plus à une autre. Par exemple, nous avons mis en connaissance de cause, dans une certaine salle, deux tableaux de Cabanel qui nous ont paru intéressants, très intéressants pour leur époque, dans les années 60. L'un est La mort de Paolo et Francesca, qui est beau à la fois du point de vue, qui est intéressant d'une part, du point de vue que vous dites, disons, sociologique, etc., et qui est un beau tableau en même temps, qui est un beau tableau, avec toutes les valeurs esthétiques que vous voulez lui donner, qui est un beau tableau, bien peint, etc. Dans cette même salle, il y a la Vénus de Cabanel, qui effectivement est un tableau qui nous paraît tout à fait ridicule, qui en son temps a été le grand événement du salon des années 60, c'était, qui est une espèce d'image. Alors là, je serais d'accord avec vous, c'est peint d'une façon que nous n'aimons pas du tout, mais c'est un tableau qui a un poids historique que nous trouvons intéressant. Mais évidemment, on l'a mis dans son contexte. On l'a mis dans la même salle que d'autres que par exemple la sculpture de Clessinger, La femme piquée par le serpent, qui à la fois est une sculpture qui a une histoire en dehors de ses qualités esthétiques fort intéressantes, puisque c'est la présidente de Baudelaire, etc., et que c'est moulé sur nature, enfin, on peut... mais qui en même temps est une sculpture, je ne sais pas ce qu'en pense Paul Bury, n'est certainement pas à l'avant-garde, mais il n'y avait pas de sculpture d'avant-garde à l'époque.
Hein,
Alors, attendez, je termine.
Oui, bien sûr.
Ces deux œuvres-là me paraissent fort intéressantes, même du point de vue esthétique. En revanche, à la fin de sa vie, il a fait des choses que nous ne montrons pas, vous comprenez ? Bon, Bouguereau, c'est la même chose. Nous avons montré Bouguereau, ce fameux Bouguereau, qui est finalement de la très mauvaise, de la très vilaine peinture, je suis tout à fait d'accord. Mais nous ne l'avons pas mis dans le circuit de peinture, nous l'avons mis dans la salle de bal, ainsi que Jules Lefebvre. Nous l'avons mis dans un décor, alors vraiment pompier, vraiment kitsch, si vous voulez, vraiment, enfin tous les mots que vous pouvez employer, mais il n'est pas dans le circuit, il est dans un contexte tout à fait différent.
Paul Bury, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette
présence ? Ah non, moi j'aime beaucoup la peinture pompier, et je crois qu'on n'a pas le droit de dire, excusez-moi, que Bouguereau s'est mal peint.
Ah oui, alors donc d'une certaine manière, vous faites non. Le reproche inverse à celui qui est traditionnellement fait à Françoise Cachin, ben, c'est bien.
Non,
c'est
parce que quand même, enfin ma théorie, moi, est que l'histoire de la peinture s'est terminée avec le cubisme, je parle de l'histoire, les grands mouvements collectifs de la peinture s'est terminée avec le cubisme, et que depuis lors, il y a eu des destins individuel. Il y a eu des individus qui ont fait de la peinture d'une certaine façon et qui ont fait que la peinture a évolué. Je pense à Picasso et à d'autres. Mais à partir du moment où la peinture s'est aventurée dans la monochromie, comme avec Yves Klein, là, on peut penser ce qu'on veut à partir de ce moment-là. Mais je crois qu'il est très important de montrer la peinture académique parce que c'est les derniers sursauts de la peinture représentative. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant la photographie, il y avait un savoir, le savoir de la représentation qui était un savoir magique, qui était le fait de quelques individus et qui était surtout le fait d'une étude approfondie. Parce que quand on voit, par exemple, ce qu'on demandait à l'époque aux élèves de l'école des Beaux-Arts, c'était babylonien, si j'ose dire. Parce que, et ce qu'on voit à l'heure actuelle, puisque j'ai passé environ 5 ans à l'école des Beaux-Arts pour... y enseigner, je dis enseigner entre guillemets, c'est dérisoire ce qui se passe maintenant.
Mais quand même, vous, Françoise Cachin...
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Paul Bury, surtout quand il dit les grandes aventures de la peinture, les grandes inventions, les vrais mouvements d'avant-garde, toutes les nouveautés se terminent avec la guerre de 14-18. Après, il y a des individualités, ça je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que cette espèce de drapeau dressé de l'avant-garde aujourd'hui me paraît discutable.
Oui, mais on peut en parler. Bon. Même si l'avant-garde est en crise aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour nier rétrospectivement fait que l'art est une histoire autonome, indépendante de l'histoire tout court.
Mais
et que c'est cette histoire-là que un musée doit retracer.
Bien sûr que c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'art que nous retraçons.
Oui.
C'était justement nos débats avec Madeleine Robert-Hugh, c'est que nous avons voulu faire un musée qui soit une histoire des arts, une histoire des formes. Mais dans le cas, pour revenir à Bouguereau, tout ce que vous dites est parfaitement juste. C'était des dessinateurs extraordinaires. Dans le cas de Bouguereau, quand même, vous m'accorderez que c'est pas une peinture sublime. C'est très amusant.
C'est déjà quelque chose d'être amusant.
Ah mais absolument.
Il y en a combien qui sont ennuyeux, même absolument. Dans l'avant-garde.
Absolument. C'est involontairement amusant. Quand même, la naissance de Vénus. Je ne sais pas. Alors que les sculptures de la même salle sont quelquefois amusantes.
Les nus de Cézanne, ça ne m'amuse pas. Chez Cézanne, j'aime les natures mortes et les paysages. Mais ses portraits et ses nus, ça ne m'amuse pas. Je trouve ça ennuyeux. Et je pense toujours à ses propos où il disait « Je voudrais réaliser comme Bouguereau ».
Enfin, tout de même, il y a eu...
C'est son modèle, quand oui, même, oui. Bouguereau.
Il y a eu à la télévision...
Alors, il faut le montrer, justement, ne fût-ce que pour voir ce que Cézanne considérait comme son modèle.
Alors, je trouve très intéressant ce que vous dites, parce que ça prouve d'abord que vous connaissez les propos de Cézanne, et les rapports Cézanne-Bouguereau, qui est vraiment tout à fait intéressant. Et en général, on nous reproche tout simplement d'avoir sorti ces tableaux, ce que je trouve tout de même un peu fort.
Non, et j'irais même plus loin, moi, c'est que les propos des artistes qui se fâchent contre la présence des pompiers, disons pompiers.
Oui, pour résumer.
Oui, c'est ça, comme terme générique et non pas comme terme historique, en simplifiant.
Ceux qui sont restés à la représentation, à la volonté de représentation, me font penser à ces propos de Ingres après la découverte de la photographie, quand Arago a présenté la photographie en 1839, et que Horace Vernet et un autre sont sortis de là en disant « la peinture est finie ». Bon, c'était un constat déjà quand même essentiel dans l'évolution de la peinture. Et puis, il y a eu le fameux manifeste de 25 artistes, dont Ingres et puis Vichavan, contre la photographie. Et Ingres a dit, la photographie, c'est formidable. Il en a fait une description en disant, c'est ligne, c'est modelé. C'est formidable, mais il ne faut pas le dire. Eh bien, je vois dans l'attitude des artistes, et de Soulages notamment, qui me voisinent, c'est la même chose. D'une certaine façon, il ne faut pas montrer les pompiers parce qu'ils montrent un savoir que nous avons perdu.
Alors là, je voudrais, puisque Soulages n'est pas là, effectivement, il voisine avec vous dans les colonnes du Nouvel Observateur. Il a fait lui-même un article. Alors je vais essayer de représenter sa position, évidemment beaucoup plus maladroitement que lui. Et pour ce faire, je voudrais revenir à Françoise Cachin, à la présentation que vous faites du guide du musée d'Orsay. Vous dites le visiteur, à peu près, pourra suivre son propre itinéraire. Celui qui est intéressé par l'art sous le Second Empire demeurera au rez-de-chaussée. Celui qui aime les impressionnistes ira voir les salles qui leur sont consacrées. Celui qui émeut seul la tradition moderne pourra se délecter de Gauguin, d'Enabi. Alors celui-là, à mon avis, on lui fait quand même la portion congrue parce que c'est les petites mansardes. Enfin, toujours est-il que vous vous dites, au fond, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un peu là, justement, la question que je me pose. Je vais la formuler autrement. Chacun ses goûts, c'est l'expression même du relativisme en art. C'est le bon sens populaire et petit bourgeois. C'est aussi que rejoignent quelquefois, et bizarrement, des théories sociologiques extrêmement sophistiquées, comme celle de Pierre Bourdieu dans La Distinction. Il me semble, moi, que les musées sont des lieux de résistance au relativisme, des lieux de résistance au chacun ses goûts. Et j'ai l'impression que le musée d'Orsay, comme d'autres expositions, comme l'exposition Vienne, comme Paris-Berlin, où l'on voyait dans une même vitrine, Je suis partout, un exemplaire de Je suis partout de 1937, et puis un tableau un livre de poèmes illustré par Picasso à la même date. Et bien que toutes ces expositions sont en train de passer de la résistance au relativisme culturel à la capitulation. Et c'est, d'une certaine manière, je crois, c'est ce que j'ai compris de la protestation de Soulages. Françoise Cachin.
Oui, c'est ce qu'on peut comprendre de sa protestation, mais c'est tout à fait injuste, car vous citez la préface d'un guide où je signale qu'il y a plusieurs possibilités. Mais il est bien évident, et il n'y a qu'à aller au musée et s'y promener pour se rendre compte que nous avons fait évidemment des choix que nous avons et que les choix que nous proposons sont très clairement établis dans le circuit du musée. Nous ne mélangeons pas tout, évidemment. Le circuit le plus important, en nombre, en nombre évidemment, en qualité, en présentation, c'est le circuit de la grande peinture. Bien évidemment, c'est pas le circuit de l'art.
Pourtant, ça semble vous réjouir, Paul Bury, puisque vous avez une grande affection pour les pompiers. Mais la télévision, quand elle a fait des reportages, ce qu'elle a montré surtout, c'est le grand tableau dans cet endroit gigantesque. Il y a une prime au gigantisme. C'est Thomas Couture, la décadence des Romains. Et c'est ce qu'on voit effectivement le plus.
Parce que c'est
très cinématographique. C'est oui, 6B2000.
Exactement.
Et je crois que c'est très important de le montrer parce que justement, c'est la continuité des pompiers. Se trouve dans le Technicolor des grandes fresques hollywoodiennes.
Ah oui, il m'a même semblé d'ailleurs la salle des orientalistes. Je voyais des correspondances avec des films très hollywoodiens ou des films comme Force Sagan, effectivement. J'avais vraiment l'impression qu'un certain cinéma avait été inventé là.
Chaque époque fait élever les reportages qu'il peut. Il n'y avait pas de cinéma de télévision. Oui. Et ce sont des paysages parfaitement honnêtes, souvent très extrêmement bien peint et très beau, et qui représente évidemment le désert est éternel, hein, c'est le même désert à l'époque et chez nous. Je trouve qu'il n'y a aucune raison de se moquer de ces paysagistes.
Il n'y a pas de raison de s'en moquer, mais la question est toujours de savoir où passe et comment faire passer la frontière entre l'œuvre et le document. Et est-ce que le rôle d'un musée qui se veut artistique est de présenter des œuvres ou de présenter des documents, alors, ou de faire un panachage entre les deux et un panachage légèrement
brouillé. Les orientalistes, on a fait un choix. Ce sont de bons tableaux. Ce ne sont pas des documents. Ce sont de bons tableaux. C'est un mouvement artistique qui est devenu très très médiocre, mais qui à cette époque-là, c'était des peintres orientalistes, à cette époque-là était excellent et très dignement représenté là. Quant aux coutures, c'est extraordinaire que tout le monde découvre le couture qui a toujours été au Louvre. C'est oui. Formidable, ça veut dire que personne ne va au Louvre.
Ça, c'est peut-être un peu vrai aussi.
Oui, mais il est bien mis en valeur. Là.
Il est très bien mis en valeur, oui.
Bien sûr.
Il y a quand même une prime au gigantisme dans cet endroit.
Il est mis en valeur, oui et non. Dans la mesure où il n'est pas dans les salles de peinture, il est presque à titre décoratif dans la grande rue. Et puis alors, pour la télévision, c'est tout simple. C'est le seul endroit possible pour amener des câbles, etc. Il y a aussi des facilités de circuit.
Et puis, il résiste bien par sa grandeur aux méfaits de Gaio Lenti.
Oui. C'est vous qui le dites.
Mais alors, je reprends tout de même cette question sous un autre angle. Vous avez dit l'un et l'autre que nous vivions une période qui est celle, au fond, effectivement, de la crise des avant-gardes. Et l'histoire de l'art n'a plus ce dynamisme, enfin, cette clarté qu'elle pouvait avoir, au fond, effectivement, jusqu'au cubisme, enfin, ou jusqu'à Picasso.
Oui, mais cette clarté, justement, oui. Comment la montrer sans montrer en face de quoi ils étaient? Je trouve que quand on sort de ce musée, si on a bien regardé les choses, eh bien on comprend la force de l'avant-garde. On le comprend parce qu'on voit la résistance, on voit contre quoi les artistes, Cézanne par exemple, travaillaient. On le comprend, on le voit. Quand il était tout seul à l'Orangerie, ça avait l'air d'être sorti de la planète Mars, à l'Orangerie au Jeu de Paume. Les impressionnistes avaient l'air d'être sortis de la planète Mars. Alors évidemment maintenant les gens sont choqués parce que c'est plus la vision... l'espèce de cliché qu'on a depuis 50 ans de l'aventure impressionniste qui sort du néant,
oui,
etc.
Oui, à ce propos-là, je voudrais vous demander, où est Turner? Parce que c'est la question comment il s'appelle, là? C'est Georges Mathieu, dans son art,
ben, il
sa
est
visite.
Turner, il est au Louvre, évidemment. Oui. C'est pas notre époque, puisqu'on commence après.
Oui, mais justement, on se demande d'où viennent les impressionnistes, ils viennent surtout de lui, alors...
Ils viennent surtout de lui, je ne suis pas tout à fait de votre avis.
Oui, mais enfin, quand même. Hein.
Mais
plus que de Delacroix.
Si vous voulez, mais enfin, au départ, on le voit très bien, d'ailleurs, dans les salles du bas... On voit justement la liaison entre les artistes antérieurs aux impressionnistes et on voit par exemple que les premiers Monet ressemblent étrangement à ce qui se faisait à l'époque,
oui,
dans les ateliers. Donc bien sûr, ça aurait été très beau de montrer. Hein. C'était un petit peu... Enfin, d'abord, en France, il faut savoir, on a un seul Turner
ben oui,
qui a été acheté il y a peu de temps. Donc, on aurait pu effectivement, dans la première salle, montrer dans les grands ancêtres, avec Ringres et Delacroix, etc. Ça aurait été possible, mais...
Oui, mais Françoise Cachin, quand même, vous dites au fond, on permet de comprendre, la valeur des grandes œuvres en montrant le contexte dans lequel elles sont nées et dont elles se sont détachées. Mais on peut dire aussi l'inverse, parce que quand on arrive au musée d'Orsay, on a tout de même le sentiment que dans ce lieu gigantesque, encore une fois, ce sont les œuvres gigantesques qui sont presque privilégiées, alors que il faut monter pour aller voir les impressionnistes qui sont entassés dans quelques salles, que le sort fait à Vuillard, à Valoton, ou bien à l'école de Pont-Aven, à Gauguin, à Cerisier, etc., est encore plus étroit. On les trouve confinés dans des mansardes. Alors, au niveau ne serait-ce que géométrique, on a tout de même le sentiment que c'est les pompiers qui gagnent, et c'est ce qui semble réjouir d'une certaine manière un peu Paul Bury. Enfin,
ah non, ça ne me réjouit pas, c'est pas là le problème, mais c'est difficile de dire si les pompiers sont avantagés ou pas. Je crois que là, il y a des contingences qui existent et avec lesquelles il faut vivre. Mais les impressionnistes, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils ont cessé de faire de la peinture d'histoire, ils ont fait des petits formats, et puis ça, oui. Je crois que ça joue énormément.
Mais oui, justement, mais ils sont perdants à cause de ça, c'est extraordinaire. Oui,
et je crois qu'on... Non, non,
oui,
non, attention.
Mais c'est la faute de la conception.
Non, c'est pas la faute de la conception, c'est la faute de l'architecture.
Oui, c'est ce que je veux dire, c'est la faute de la conception architecturale.
Chez les impressionnistes, si les salles n'avaient pas eu ce même défaut qu'il y a à Beaubourg, c'est-à-dire les plafonds qui écrasent tout, on aurait mieux vu les impressionnistes. Mais enfin, là, ce n'est pas de la faute des...
Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que la grande beauté est chassée par la laideur dans les recoins. Enfin, je dis ça très polémiquement, mais un peu pour...
Moi, je pense que vous avez tort.
Oui, alors expliquez-moi pourquoi j'ai tort. Comme ça, j'y retournerai une troisième fois.
Parce que la grande beauté, elle n'est pas seulement... Évidemment, si vous attendez uniquement la grande beauté dans les caroutchoucs de Pissarro, vous allez être déçu. La grande beauté, elle est beaucoup plus variée que ça. Et si, je crois qu'on se fait une idée, l'impressionnisme est un mouvement extraordinaire. Il y a surtout des artistes extraordinaires. C'est un mot qui regroupe des gens plus ou moins talentueux. Et ce qui est intéressant, cette histoire de petit et de grand format, c'est parfaitement juste. Les impressionnistes, au bout de quelques années, ont eu eux-mêmes le sentiment d'une difficulté d'arriver à un point de non-retour. Et tous ont voulu faire des grands formats. Regardez Monet. Monet a fait des nymphéas immenses. Et au fond,
Mais c'est le seul qui a réussi, pour ainsi dire.
Oui.
Qui a réussi à transmettre son message, comme on dit.
Oui, bon, les autres, ma foi...
Cézanne n'a jamais fait de grand format. Il est mieux dans les petits formats.
Oh, ça, c'est vous qui le dites. Vous n'aimez pas les grandes baigneuses. Moi,
un
de mes grands regrets, c'est que nous n'ayons pas à Orsay les grandes baigneuses de Cézanne qui sont parties il y a une vingtaine d'années de France. Et je crois qu'on aurait vu justement qu'à une certaine époque, tous ces artistes ont eu envie de faire grand. Et que la génération qui les a suivis a voulu faire grand. Bon, Seurat voulait faire des très grands formats. Malheureusement, on ne les a pas en France. Mais on verrait qu'on est retourné au grand format moderne.
Oui, Seurat, oui. La grande jatte.
Et Gauguin, quand même. Là aussi, on n'a pas. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on n'a pas tous ces tableaux.
Mais alors, quand même, la question qui se pose, n'aurait-on pas dû concevoir le musée, l'architecture intérieure du musée, dans l'idée de compenser ce désavantage des petits formats face aux grands formats, au lieu au contraire de l'aggraver? Voilà, c'est ça, moi, la question que je me pose.
Mais je ne trouve pas qu'on l'ait aggravé. On a adapté les petits formats à des salles qui sont moins hautes.
Mais qui sont elles-mêmes souvent un petit peu minuscules. Il y a vraiment
non, là où ce que vous dites. Enfin, effectivement, je trouve que nous n'avons pas assez de place pour le post-impressionnisme, effectivement.
Alors là, vous êtes un peu d'accord.
Là, je suis un petit peu d'accord. J'aime beaucoup ces salles, cela dit. J'aime beaucoup ces salles et j'aime beaucoup le principe d'entrer dans une espèce de galerie de colonnes et en marchant, de découvrir à droite et à gauche des salles. Là aussi, c'est une adaptation, vous savez, au bâtiment. C'était les chambres d'hôtel, de l'hôtel d'Orsay. C'est une adaptation au bâtiment. Et moi, ce qui me frappe dans le travail de Galeo Olanti, c'est toutes les solutions qu'elle a trouvées à des tas de difficultés qui avaient l'air extrêmement insurmontables.
Oui, mais à son profit. Au profit de son style.
Vous savez,
quand vous dites que je fais du fantasme à propos de ça.
Non, je parle de fantasme à cause de la dévoration.
Du cannibalisme.
Oui, c'est vrai que c'est le titre d'ailleurs, je crois, de l'article.
Mais oui, mais c'est du cannibalisme parce qu'elle dévore l'espace, elle prend l'espace qui reviendrait aux artistes. C'est elle qui s'en empare pour faire son architecture. D'ailleurs, je serais curieux de voir. Moi, tous les artistes à qui j'ai demandé ou qui m'ont exprimé leur opinion sont tous unanimes sur cette architecture. Il n'y en a qu'un qui a été dithyrambique, c'est Valerio Adami, parce qu'il est italien et qu'il est...
C'est pas la seule raison.
Il a un goût... si, ça peut s'expliquer. Mais il a un goût baroque aussi de certaines choses. Mais tous les autres sont unanimes pour dire, comme d'ailleurs on en a eu un exemple qui était pis encore, c'était l'exposition qu'il y a eu au Grand Palais des Acquisitions, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui je crois était un assistant de Galeo Olanti, qui était là où l'architecte qui a fait la présentation a décidé que les tableaux qui ne lui plaisaient pas, il les mettait au plafond. Et il y a eu toute une série de tableaux qu'on ne voyait pas. Non, mais je veux dire, là, c'est le paroxysme.
Oui, c'est le paroxysme, parce que la présentation. L'accrochage et la présentation, c'est évidemment, c'est pas Galeo Olanti qui l'a fait, c'est nous.
Non, mais vous avez fait avec.
On a fait ensemble.
Oui, mais...
On a travaillé.
Les murs de pierre, ils sont là, vous devez faire avec.
Oui, mais on était d'accord avec les murs de pierre au rez-de-chaussée.
Mais Paul Bury, qu'est-ce que...
Vous ne pourriez pas dire autre chose.
Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec les contraintes de ce lieu?
Parce que ces contraintes existent. Moi, je ne suis pas un muséocrate.
Non, mais qu'est-ce que... Vous n'êtes pas un muséocrate, mais enfin, vous ne pensez pas non plus qu'il faille détruire les musées. Vous m'avez dit, au fond, vous ne voyez pas d'inconvénient, vous, à ce qu'un musée se trouve dans cette gare.
Je suis d'accord avec Françoise Cachin quand elle dit que c'est bien dommage qu'on a détruit les halles.
Oui.
Parce que
moi, je ne suis pas pour la destruction de la gare, bien entendu.
Ça aurait été quelque chose de magnifique et beaucoup plus...
Ça peut être un bel objet en soi, mais... Admettons donc, mais comment faire dans une gare comme ça pour créer les conditions de visibilité?
Ça, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas architecte. Je ne suis pas. Il y a des architectes. D'ailleurs, je le dis, au musée Picasso, c'est réussi.
Le lieu est moins difficile, quand même, non?
Ben oui, bien sûr. Il y a pas le grandiose de la voûte du chemin de fer.
Mais
Puis l'architecture est plus classique, elle est plus simple. Mais enfin, elle pouvait aussi être détruite. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples d'architectes qui se sont emparés de lieux anciens, d'architecture ancienne, et puis qui l'ont massacré.
Mais le musée Picasso, c'était des salles. C'était un petit aménagement intérieur qu'il fallait faire. Tout était fait. C'était un...
Non, mais je parle de l'ambiance.
Tandis que là, il fallait créer des salles.
Il fallait créer des salles. C'est ça, justement. Vous voyez bien, il faut créer des espaces. Alors
mais ça ne me dérange pas qu'on ait créé des salles. Je vous dis, c'est l'aspect colossal qu'on a partout où on se trouve. Et puis les petits trous pour accrocher les tableaux.
ces petits trous sont destinés effectivement à poser les tringles pour accrocher les tableaux et ceux du bas à poser les cartels. Et ils ont aussi une fonction acoustique.
Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, mais enfin, peut-être là, je crois qu'il y a
un acoustique, c'est-à-dire.
Derrière chaque petit trou, il y a une espèce de bouteille qui est une
bouteille d'eau.
Qui attrape les sons, enfin qui est une vieille méthode, et effectivement qui étouffe un peu le bruit.
Mais qui étouffe la vue aussi.
Vous pensez que ces trous gênent la vue?
Ah oui, moi ça me gêne. À partir du moment où je les ai vus, il y en a partout.
C'est très au-dessus et très au-dessous des tableaux quand même.
Oh. J'ai pas de photo de toute façon.
Non, de toute façon, oui, ça nous aurait servi à nous deux, et nous connaissons le musée, surtout Françoise Cachin, donc... Écoutez, le débat ne peut pas se clore sur une conclusion. Vous n'êtes pas d'accord. J'ai essayé de représenter...
Si, nous sommes d'accord sur
l'état de point.
Sur l'essentiel, sur la présence des pompiers.
Voilà, alors j'ai essayé de représenter ici, comme j'ai pu le faire, le point de vue de ceux qui expriment des doutes sur cette présence, ou ce qu'il juge même comme une présence envahissante, voire comme une omniprésence. C'était le cas de Soulages. Alors je renvoie à ceux que ce débat intéresse, et j'espère qu'ils sont nombreux, je les renvoie au numéro, de dernier numéro du Nouvel Observateur, paru hier, où à côté d'un article de Françoise Cachin et d'un article de Paul Burry, il y a aussi un article de Madeleine Rebériou et un de Soulages.
C'était un numéro de réplique que Alain Finkielkraut consacrait au musée d'Orsay avec Françoise Cachin et Paul Burry. Première diffusion le 17 janvier 1987 sur France Culture.